Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Charles Gachet-Dieuzède.
Bien bonjour Julien Vidal.
Ouais, je sais que c'est toujours bizarre de dire les noms de famille, mais ça permet de présenter complètement la personne que je reçois dans ce podcast 2030 Glorieuse, dans laquelle j'ai l'habitude de rencontrer celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Et d'ailleurs, au passage, pour celles et ceux qui nous écoutent, j'en profite pour dire que ce podcast que vous écoutez gratuitement est libre et indépendant, et il a besoin pour continuer à exister et à se développer de votre soutien. Donc à la fin de cette interview, n'hésitez pas à relayer le podcast à votre entourage, mais aussi laisser une bonne note sur votre application. Et si vous êtes sur Apple Podcast, à laisser 5 étoiles. Voilà, c'est dit, merci. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et nous allons parler de Sequoia Écotournage que tu as cofondé. Nous allons aussi aborder plus largement des sujets comme la transformation des structures, la mobilisation des gens à l'éco-citoyenneté, la puissance des récits ou encore la nécessité de l'art dans nos vies. Donc ça va être un vaste programme. Mais pour commencer, Charles, j'aime bien moi ouvrir la porte des métiers. Et toi, tu as un métier quasiment inconnu, presque même inexistant. Je pense qu'on peut dire unique ou presque unique que tu t'es créé toi, en fait, non?
Oui, tout à fait. Bah, déjà, merci beaucoup de me donner la parole, Julien. Tu me mets un petit peu la pression en m'expliquant de quoi on va parler. Et donc, on met la barre haut. Je suis ravi d'échanger avec toi. Écoute, en effet, j'ai co-créé, on va dire, avec mon associé Mathieu Delahousse, ce métier qui est l'éco-manager et également l'éco-assistant. Donc, en fait, c'est un métier nouveau. Ce métier existe d'une certaine manière à l'étranger. On peut retrouver un peu des sortes de green manager, de Green Production Assistant, donc production assistant de production vert aux États-Unis, mais rien d'officiel, rien de formel. Et donc en France, on a créé ce boulot qui s'appelle l'éco-manager, c'est la personne qui est la spécialiste de la RSE, donc de l'éco-responsabilité, du social et de l'audiovisuel. Donc c'est la croisée des chemins, c'est comment est-ce que cette personne va s'occuper de rendre un tournage de film le plus éco-responsable et le plus social possible. Vaste programme, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? Parce qu'en plus, j'ai cru qu'effectivement, tu n'allais pas en parler. On parle d'éco-manager, là, dit comme ça, ça veut un peu tout et rien dire. Mais la spécificité de ton métier, c'est qu'en fait, il se fait sur les plateaux de tournage directement auprès des équipes qui sont en train de tourner un film ou une publicité, par exemple.
Exactement. Sur un tournage de film, il y a différents postes, il y a différents métiers, que ce soit le producteur, le chef coiffeur, le régisseur, le cadreur, eh bien nous on a inventé l'éco-manager. Donc sur le tournage de film, l'éco-manager c'est la personne qui va vraiment centraliser toute la démarche éco-responsable. C'est un métier donc nouveau, comme on l'a dit. Pour l'instant, les seuls éco-managers qui existent sont ceux qui ont été formés par Sequoia et ce sont en gros nos salariés d'une certaine manière, nos collaborateurs, ceux qui bossent chez Sequoia en ce moment. Et donc, ils sont en effet ce nouveau job sur les plateaux. Donc, certains en ont déjà entendu parler, d'autres personnes ne connaissent pas. Donc, des fois, c'est un petit peu nouveau. Il faut expliquer aux autres personnes du plateau de tournage. Ben voilà, moi, je suis éco-manager, voilà ce que je fais. Et on espère que ça va se démocratiser et que ça sera bientôt un poste obligatoire, on l'espère, mais un poste que tout le monde connaît, quoi.
Parce que finalement, de plus en plus, on se rend compte hein, des coulisses, notamment d'un film au cinéma, et on le voit, on l'a tous vu d'une manière ou d'une autre, à la fin, avec le générique de fin, où il y a des centaines, parfois des milliers de noms qui passent. En fait, tourner un film, c'est créer momentanément un petit monde, un petit village presque clos, et qui, étant souvent dans un rush ou dans une nécessité de créer quelque chose un peu presque miraculeux, pourrait oublier, mettre de côté ou voir comme superflu le fait bah, de s'allier un peu ou de s'aligner avec les nécessités de notre temps, à savoir la frugalité, la réduction des déplacements, de la consommation d'énergie, la production des déchets qui sont en fait vraiment très très présente dans ce milieu où tout est en extérieur, tout est dans des zones affectées spécialement pour le tournage de manière très ponctuelle, et donc en fait on a beaucoup de gaspillage. Toi tu travailles dans ce milieu depuis des années en fait, et c'est en voyant tout ce gâchis que tu t'es dit mais c'est plus possible.
Tout à fait, j'aime bien la comparaison que tu viens de faire sur le mini village ou la mini société. Moi je fais plutôt la comparaison d'une mini entreprise, mais je trouve que la tienne est mieux. En effet, il faut se dire qu'une société de production, généralement, c'est une petite structure avec quelques personnes dans un petit bureau, souvent à Paris. Et en fait, quand le film va se lancer, c'est des millions d'euros de budget, c'est des centaines de personnes qui vont travailler dessus, c'est des dizaines de prestataires. Et donc, en fait, à l'image d'une société, on va retrouver plein de caractéristiques qui peuvent la composer. Donc, c'est bien évidemment le travail, tourner un film, donc créer des images, créer un scénario, créer une œuvre. Mais c'est également des liens entre les gens, des relations entre les gens. C'est également de la nourriture. Il faut nourrir ces personnes. Il faut que ces personnes se déplacent. Il faut que ces personnes consomment. Il y a besoin de matériel qu'on va louer, qu'on va acheter. Donc, en fait, c'est vrai qu'on recrée un mini-monde. Un mini-monde. Et en effet, dans le monde réel, va-t-on dire, dans le monde réel qui a tendance à essayer d'accélérer sa transition, même si on n'est pas tous d'accord. Et je pense qu'on est d'accord pour dire qu'elle va pas assez vite, cette transition écologique. Mais là, nous, dans le cinéma, en effet, on est un peu en retard. On est un peu en retard dans le sens où ces thématiques-là, le social, l'écologie, l'éco-responsabilité, l'impact carbone, l'environnement, l'inclusion, la parité, l'économie circulaire, le local, eh bien tout ça, ce ne sont pas vraiment des termes qu'on retrouve quotidiennement sur un plateau. Donc ce qu'on fait avec Sequoia, on essaye d'amener ces choses-là, on essaye d'amener ces concepts sur les plateaux en disant en fait on peut changer la manière dont on fait un film. On aimait bien dire tourner aujourd'hui sans compromettre demain, mais c'est aller plus loin, c'est en fait réinventer un monde comme on réinvente notre monde à l'échelle globale. Là, réinventer notre monde, notre secteur audiovisuel en changeant la manière dont on opère, en fait.
Pour rendre ça plus palpable, est-ce que tu peux, s'il te plaît, Charles, me donner deux exemples? Le premier, c'est les grands gâchis qui ont fait un peu l'histoire du cinéma. Il y a deux, trois exemples qui me viennent en tête, mais je suis sûr que toi, tu en as plein, ces histoires de tournage qui ont jusqu'à dérégler des écosystèmes complets. Et à l'inverse, deux, trois exemples vertueux, notamment peut-être de séries ou de films que vous avez accompagnés ces dernières années, où là, il y a une vraie démarche et une ambition dans le fait de transformer leurs pratiques.
Quelques exemples, en effet, il y a les exemples assez connus de films qui ont pu aller tourner à l'étranger, de gros films américains qui sont allés tourner dans des endroits un petit peu protégés ou des endroits naturels et que du coup ça a laissé des traces indélébiles. Mais pour parler de choses qui nous concernent peut-être plus à une échelle locale, on sait par exemple qu'aller tourner dans un parc naturel des Alpes ou en Camargue ou ailleurs, eh bien, ce mini-monde, cette mini-entreprise, quand elle arrive avec 100 personnes, avec presque autant de véhicules, parce qu'il faut les camions pour le matériel, etc., avec des groupes électrogènes, eh bien forcément, elle laisse un impact. Tout ce qu'on fait laisse un impact. Moi, ce que j'aime rappeler aux producteurs, c'est que l'impact carbone, quand on parle de ça, tout a un impact carbone. Chaque euro qu'on va dépenser, chaque geste qu'on a, un impact carbone. L'ordinateur avec lequel je te parle, mon téléphone, mon cahier, ma nourriture. Et même plus que ça, ça n'a pas que un impact carbone, c'est un impact environnemental, social, selon la manière dont on consomme. Donc ce que j'explique aux producteurs, ce qu'on explique aux producteurs avec Sequoia, c'est que quand ils arrivent dans un endroit, ils laissent des traces. Donc forcément, quand on est en montagne et qu'on installe des groupes électrogènes à 3000 mètres d'altitude, et qu'on les fait tourner toute la journée pour avoir de la une source lumineuse, je te laisse imaginer que nos amis les marmottes, nos amis les chamois, nos amis les loups ou autres petites bêtes ne reviendront pas de sitôt à cet endroit-là. Donc déjà, on va abîmer de cette manière-là. Et ensuite, il y a bien évidemment la consommation. À l'échelle d'un tournage, on va consommer beaucoup. Eh bien, fin de journée d'une publicité parisienne tournée dans un grand studio, on a voulu, comme la société nous l'a toujours dit, une opulence de nourriture et de biens. Donc, on a à manger pour tout le monde, pour que tout le monde soit rassasié et même au-delà de rassasié. Et en fin de journée, eh bien, on se retrouve avec des tonnes de nourriture. On ne sait pas quoi en faire. On n'a pas le temps. Le temps, c'est de l'argent. Ça coûte cher. De demander à quelqu'un là, d'aller donner cette nourriture, bah, c'est trop compliqué. Enfin, c'est ce qui se dit. Hein. Nous, on essaie de lutter contre ces préjugés, mais c'est trop compliqué. Du coup, la nourriture, elle finit à la poubelle. Et la poubelle, on vous a dit de trier chez vous. Eh ben, sur un tournage, on va pas forcément trier parce qu'on n'a pas l'infrastructure. Donc, tout finit dans la même poubelle. La nourriture qui aurait pu être consommée, la bouteille d'eau en plastique qui est en plastique, ça, c'est pas bien, on est bien d'accord, et qui est à moitié entamée, finie au même endroit, ainsi que le bois, ainsi que les mégots de cigarettes, ainsi que tout. Et donc là, on va pas recycler.
Oui, et puis tous les déplacements aussi. Tu le disais, il y a des camions qui sont remplis, il y a des déplacements qui sont parfois presque inutiles, auxquels on réfléchit pas, et sans parler des fois où il faut trimballer toute l'équipe en avion d'un site à un autre. Et donc, en fait, vous attaquez toute la globalité de l'empreinte, de l'impact, qui n'est pas que effectivement en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Vous revoyez tout, idéalement même, j'imagine, depuis le début.
Exactement. L'idée, c'est qu'on aime pouvoir même travailler. On n'y arrive pas vraiment parce que c'est trop touchy de le faire. Mais quand un scénariste écrit Jean Dujardin se balade tout nu sur cette belle plage des Bahamas, eh bien, en fait, ça a un impact logistique derrière parce qu'il faut envoyer tout le monde aux Bahamas. Et forcément, on va envoyer 100 personnes aux Bahamas en avion, du matériel. Donc, tous ces déplacements, il faut les repenser, la manière dont on fait des films. Il faut réussir à repenser tout ça en l'incluant dans une manière de fonctionner qui est beaucoup plus durable et beaucoup plus responsable, sans toucher à la création, bien sûr, qui est unique, notamment en France. Mais comme tu le dis, les déplacements, envoyer tout le monde à l'autre bout du monde pour faire une scène de 30 secondes dans un film, ou même moins, même pour filmer un coucher de soleil de 5 secondes, est-ce que vraiment ça a encore du sens quand on voit les enjeux qui nous attendent? C'est un peu cette question que j'aime soulever face à mes producteurs, en leur disant, voilà, est-ce que vraiment on a besoin de faire ce plan-là? Est-ce que là, on a besoin d'aller en hélicoptère en haut de cette montagne pour faire un plan de 1,5 seconde sur cet aigle à qui on va demander de s'envoler du nid, on va le forcer de s'envoler du nid pour pouvoir le filmer? Bon, l'impact environnemental, on en a parlé, l'impact carbone, voilà, l'impact sur la biodiversité. Voilà, donc tout a un impact, forcément, et l'idée avec Sequoia, c'est de réfléchir à des nouvelles manières de limiter ces impacts. Alors, pas de les déplacer, bien évidemment, parce que si c'est ne plus tourner en France, mais aller dans un autre pays pour avoir des meilleures conditions de travail et pourrir un autre endroit, c'est pas l'idée. On parle beaucoup de relocalisation également, d'arrêter d'aller tourner dans les pays de l'Est. Après, se soulèvent les problèmes économiques de mettre des gens au chômage à l'autre bout de l'Europe. Mais voilà, c'est vraiment des questions qui sont globales et on essaye de peut-être pas d'y répondre, mais en tout cas de les soulever et d'y réfléchir avec nos clients et avec nos partenaires. En fait.
Il y a peut-être un ou deux films qu'on a vus sur nos écrans ces dernières années que vous avez accompagnés, des publicités, où là, les pratiques, elles ont été revues en profondeur.
Alors, je ne peux pas en effet pas citer tout le monde, mais je peux citer des publicités avec lesquelles on a travaillé qui sont vraiment dans une démarche comme ça globale. On peut te citer par exemple L'Oréal et Garnier Bio. Garnier Bio, ils sont vraiment dans une démarche de communication responsable et de produits responsables où ils réfléchissent sur toute la ligne de fabrication à leurs produits pour qu'il ait le moins d'impact. Donc forcément, on a travaillé sur leur tournage pour les aider là-dedans, dans la réduction de leur impact. Également CNP Assurance, avec qui on a vraiment bossé là-dessus. Alors, eux, ils sont plus sur le social, mais voilà, c'est une démarche globale. Et des films que vous auriez pu voir à l'écran, il y a le film de Nicolas Vanier, qui s'appelle Polly, qui est sorti il y a peu, qui s'est tourné dans le Gard, sur lequel Mathieu Delahousse a essayé de mettre en place le plus de démarches vertueuses. Et d'ailleurs, c'était un franc succès, car le réalisateur était à l'écoute. On a également la série portée par Thomas Bourguignon, série pour Canal+, qui s'appelle Baron Noir. La saison 3 de Baron Noir a été portée vraiment de manière durable et responsable. On a travaillé sur énormément de sujets. C'était pas simple, c'était une très grosse machine. Et bien évidemment, plus un film est gros, plus les externalités négatives sont importantes, mais les positives aussi, parce qu'on a pu travailler sur plein de sujets et on avait les moyens de le faire. Donc ça, c'était vraiment super. Donc voilà, ça, c'est des exemples de films que vous auriez pu voir. Pour l'instant, tout compris, on a accompagné en un peu moins de 3 ans une cinquantaine de projets, tout confondu, que ce soit publicité, documentaire, pas trop de documentaire, mais principalement des séries télé, des longs-métrages. Puis après, on a travaillé avec des festivals, comme le Festival du film de la fiction de La Rochelle, avec des structures comme TV5 Monde, donc voilà.
Bravo Charles, hein, parce que ce que les gens ne savent pas qui nous écoutent là, c'est qu'en fait nous on se connaît justement depuis le tout début de Sequoia, et de voir à quel point vous avez eu le courage de tenir bon, parce que souvent hein, les débuts on présente des idées qui paraissent évidentes et puis en fait on nous regarde comme des fous, et là en l'occurrence je sais qu'au début on vous regardait comme des fous. Et d'avoir tenu bon et d'être aujourd'hui souvent, je vous suis pas mal sur les réseaux et vous êtes souvent cité en référence, vous êtes souvent présenté dans les festivals comme un exemple à suivre, et pour ça franchement bravo. C'est hyper inspirant de voir à quel point il y avait cette envie, et que avec en plus, comme tu le disais, au niveau social, tout ce qui est en train d'être remué pour le meilleur, j'espère, dans le cinéma, ça a tombé à pic, et donc l'occasion est de faire coup double est belle. Est-ce que toi, tu dirais, parce que j'ai l'impression que tu m'as un peu déjà répondu, mais j'avais quand même envie de te poser la question de manière très concrète, est-ce que tu dirais que accompagner les équipes sur ces rouages et sur la transformation de leurs pratiques, ça leur pose la question de changer un tout petit peu le propos du film? Dit autrement, est-ce qu'on peut avoir un John Wick hyper écolo sur le tournage et encore hyper, sur le massacre, la surconsommation, des choses comme ça? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, la contradiction est trop forte?
Alors là, tu vas attaquer ma dualité interne et ma réflexion personnelle, parce que d'un côté, il y a l'homme que je suis qui se dit non, c'est pas possible de tourner un Mad Max ou un John Wick écolo, parce qu'en fait ça a aucun sens et c'est du greenwashing et c'est une énorme oxymore, en fait ça n'existe pas, c'est pas possible de faire ça dans le monde dans lequel on vit. Et à côté t'as le chef d'entreprise qui se dit de toute façon John Wick 17 ou Mad Max 28 ils se tourneront sans moi, avec ou sans moi, donc dans tous les cas, est-ce qu'il faut mieux pas que je puisse les accompagner et leur proposer quelque chose d'un petit peu plus responsable, et donc une version plus light de leur tournage, si tant est qu'on y arrive? C'est toujours l'exemple de dire, est-ce que Total qui s'engage, c'est bien? Je pense que Total, malheureusement, ils seront là pendant encore quelques années. Donc quand ils mettent un peu d'argent pour verdir tout ça, moi d'un côté ça me fait mal au cœur, et d'un côté je me dis c'est quand même de l'argent pour des bonnes causes. Donc ou l'exemple de Bill Gates qui a fait sa fortune sur Microsoft, et on sait que voilà l'impact que l'informatique a et de tout ce matériel de consommation horrible, et en même temps il donne les 95% de sa fortune pour des associations. Donc c'est toujours cette dualité, et je pense qu'on peut pas être aussi binaire que ça. Bien évidemment que les films continueront d'exister, et qu'il faut que la culture soit un levier pour changer notre monde, pour changer nos imaginaires. Mais si bien évidemment on peut accompagner cette transition dans la culture et faire en sorte que John Wick 27 soit un petit peu plus écolo, et qu'à la fin de chaque journée, y ait des SDF qui soient nourris avec les restes de nourriture qu'il y a, ou qu'il y a des assos qui puissent profiter de ça. Moi, je pense qu'il faut le faire. Il n'y a pas de petit effort. On ne va peut-être pas citer le Colibri qui est peut-être un peu dépassé aujourd'hui, mais à un moment donné, il faut tous se retrousser les manches, et donc il faut y aller. Donc oui, je pense qu'il faut pouvoir accompagner tout le monde. Il faut que tout le monde se change. C'est le début, on est vraiment au tout début, comme tu l'as dit, Sequoia, il y a 2 ans et demi, on était vus comme des fous et tout le monde nous a dit que ça ne marcherait jamais et qu'on s'en foutait. Preuve en est que non, donc oui, allons-y. Et pour revenir à ce que tu disais sur l'imaginaire, là, la question se pose vraiment de dire que veut-on montrer, quoi. Est-ce qu'on veut montrer Jean Dujardin, avocat dans un film et qui habite à Paris, il se déplace en vélo, en fait, comme beaucoup de Parisiens, ou est-ce qu'on veut montrer Jean Dujardin, avocat à Paris, dans son film, qui se déplace en grosse Mercedes 4x4 parce que c'est un placement de produit qui a rapporté 100 000 euros au film, et que du coup, en fait, il n'y a pas le choix, on va mettre la Mercedes à l'écran. Et que du coup, les gamins qui voient ça, ou même les gens, ou l'imaginaire que tout le monde se crée, disent, je vais faire avocat, comme ça, je vais m'acheter mon Mercedes. Alors qu'en fait, on pourrait peut-être dire, tu vas faire avocat, puis tu vas t'acheter un vélo, ça sera très bien aussi.
Ouais, en plus, je réfléchis, je pense que mon exemple, il était mauvais, et John Wick peut-être que c'est pas forcément effectivement le film qui te fait le plus grandir, mais Mad Max, ils ont une vraie critique en plus de l'impact de nos modes de vie avec cette dystopie qui montre qu'on va droit dans le mur. J'aurais peut-être dû, tu vois, parler de Fast and Furious 8 ou 9 ou 10 où apparemment maintenant ils vont terminer sur la Lune ou je sais plus quoi. Bref, et effectivement, je pense que là, l'exemple, il est plus là parce que ça véhicule des codes de surconsommation, de relations nocives entre les hommes et les femmes. Enfin, ça, je pense que là, il y avait plus de travail par rapport à ça. Et ce que j'entends quand même en creux, tu le dis pas comme ça, mais je l'entends quand même. Je pense que à force de verdir les rouages de ces films-là et de permettre de vivre à toute l'équipe cette cohérence, je pense que ensuite, quand on mettra à l'image de plus en plus de gros SUV Mercedes, ça sonnera faux en fait. Et je pense qu'il y a aussi cette nécessité de rendre désuet, pour pas dire même carrément has-been, le fait de se vautrer dans la surconsommation, le gaspillage ostentatoire. Et je crois que le transformer de l'intérieur, ça va accélérer ce sentiment-là, je pense.
Tout à fait. Alors, juste pour rebondir sur le nouveau Fast and Furious, ils iront sur la Lune, mais comme on les a accompagnés, ils iront sur la Lune en fusée électrique. Donc, du coup, c'est écolo. Donc, ça va. le problème, en effet, c'est que ce qu'on veut montrer, c'est ça, c'est un peu comme ce qu'on appelle le bashing, de mettre la honte à quelqu'un en disant en fait ton SUV il est nul. J'ai un copain à côté de chez moi qui il y a pas longtemps s'est acheté justement le dernier énorme 4x4 avec 300 chevaux et il était tout fier de me le montrer. Et en fait je me suis moqué de lui, j'ai dit mais c'est nul, c'est tout pourri, tu me fais pas rêver du tout, ton truc c'est nul, tu m'intéresses pas en fait quand tu fais ça. Et je pense que on va de plus en plus là-dessus avec notre jeune génération. Et en effet, le comédien qui rentrera dans son gros 4x4 à l'écran, il passera pour un gros naze et ça desservira le propos du film. Et en fait, il y aura des gens qui diront c'est nul de montrer ça à l'écran. En fait, dans mon scénario, moi je veux pas que ça se passe comme ça. Donc c'est important de parler de ça parce que ça permet de sensibiliser, de dire aux gens on n'y est pas tout de suite, mais ça serait bien de pouvoir réfléchir à ce qu'on veut montrer, sans tomber non plus dans l'idée de, tu vois, moi je rêve pas non plus d'une planète verte, mais d'une consommation verte à tous les étages. C'est-à-dire que si c'est pour que dans 5 ans tout le monde, enfin tu vois, il y ait 452 marques de vélos électriques qui existent en France, qu'il y ait 150 millions de marques de slip français fait en France, blablabla. Bon, je pense que c'est plus une réflexion en effet sur nos modes de consommation et sur la planète qu'on veut habiter et ce qu'on veut laisser, quoi. Donc oui, ça serait bien de mettre des vélos à l'écran, mais peut-être qu'en fait ça serait bien de montrer qu'à l'écran le gars il marche en fait, et que c'est pas une question de véhicule, c'est pas une question de on va lui mettre un 4x4, on va lui mettre un vélo, on va lui mettre un hoverboard, on va lui mettre une trottinette électrique ou je sais pas quoi. Non, en fait on va montrer un comédien qui marche. Parce que ce comédien-là, dans son film, le personnage dans le film, il a réfléchi à une nouvelle manière de vivre, de consommer. Il part plus en week-end tous les 4 matins et voilà, c'est plus frugal, c'est plus local, c'est plus engagé. Donc peut-être que c'est aussi ça qu'on doit montrer comme récit, sans tomber non plus dans un imaginaire trop chiant, parce que c'est quand même sympa de temps en temps de se regarder Mad Max, et comme tu l'as dit, de voyager un petit peu, quoi.
Écoute, on pourrait presque s'arrêter là, tant là tu viens de cocher en quelques minutes toutes les cases des intérêts que j'avais à te donner la parole, parce que dans un secteur je pense qui est très mouvant et qui peut poser de plus en plus de questions, tu montres que en fait on peut venir avec des valeurs et transformer les choses de l'intérieur, hein. Souvent on dit oui mais changer les choses de l'intérieur c'est impossible, et donc là dans une structure qui est quand même très fermée, très, très cloisonnée, avec tout un tas d'habitudes et d'automatismes, vous arrivez à rebattre les cartes, et pour ça bravo. Vous montrez en plus, et ça on l'entend aussi dans ce que tu dis dans tes exemples, que en fait plus vous allez réussir à mettre en cohérence les gens dans leurs actions, et ben plus dans leur valeur au film ça apparaîtra obligatoire de faire de même. Et comme tu le dis très bien, l'idée c'est pas de juste greenwasher un peu tout ça en vendant une autre surconsommation, même si c'est des vélos électriques ça marchera pas, c'est aussi de l'incarner différemment, avec une sobriété, avec un esprit critique. Donc pour ça c'est passionnant, et ça montre à quel point il y a du pouvoir, il y a des leviers qui sont à activer dans notamment le cinéma, qui est une machine à rêver. Pour l'instant, elle nous a appris à vénérer Tony Stark et son Audi R8 comme étant le paroxysme de la réussite sociale. Bientôt, ça sera d'autres modèles et ça, vous y travaillez concrètement. C'est passionnant. Charles, on pourrait continuer pendant des heures sur ce sujet. Tu en reparleras malgré toi quand on partira ensemble en 2030 Glorieuse. J'aimerais quand même qu'on s'arrête là. Et avant de partir en 2030 Glorieuse, on fait toujours la même chose. On a ce cadeau qu'on reçoit de l'invité qui va nous lire une petite fenêtre de littérature. Voilà, parce que dans tous les bouquins qui nous entourent, il y a des fenêtres qui ouvrent vers des utopies réalistes. Toi, Charles, tu es venu avec un bouquin bien précis. Lequel ?
Alors, c'est Dominique Bourg. C'est un philosophe et professeur suisse à l'Université de Lausanne qui travaille sur des questions d'écologie et d'écologie intégrale qui sont très intéressantes, parfois un peu compliquées à lire. Mais vraiment que je recommande parce que ce sont des mines d'or d'informations et de compréhension de notre monde. Société, socialiser l'écologie. Quand cesserons-nous de nier le besoin d'une transition sociale et écologique, ou, ce qui peut être pire encore, de simplifier à outrance la forme qu'une telle transition va prendre? Quand commencerons-nous enfin à accepter que la transition dont nous avons besoin n'est pas seulement une affaire de progrès technologique ou de verdissement de la croissance économique, mais aussi et surtout un projet de société et même de civilisation? Donc avant tout un projet politique de refonte de nos mécanismes démocratiques. Quand entendrons-nous enfin que la magie technologique du numérique, du smart et de l'efficience ne résoudra pas à elle seule des tensions sociales et environnementales qu'elle a en partie contribué à engendrer? Quand admettrons-nous enfin qu'écologiser la société est l'urgence capitale de notre époque, mais qu'il existe une pluralité de conceptions raisonnables de ce que cette écologisation implique et requiert, et qu'il faut donc également socialiser l'écologie, faire d'elle l'un des moyens contemporains de structurer nos démocraties pluralistes, de canaliser nos manières de vivre vers une diversité de visions de la société et de l'économie compatible avec ce que la raison environnementale requiert. Écologiser la société, socialiser l'écologie, tel est le programme de l'écologie intégrale, qui consiste à considérer que les problèmes écologiques et sociaux sont comme le recto et le verso d'une même feuille de papier, les inégalités les associant indissolublement. Quand amorcerons-nous enfin une véritable trajectoire de transition qui fasse place dans nos démocraties à cette diversité raisonnable des conceptions de l'écologisation ?
Merci Charles. Pourquoi Dominique Bourg ?
Bien, parce que c'est quelqu'un qui a une vision très large et en même temps, c'est du macro et du micro. C'est-à-dire qu'il est très large, mais il va attaquer des sujets qui vraiment te prennent un peu aux tripes. Moi, je l'avais vu en conférence à Annecy et en fait, j'en avais les larmes aux yeux. C'est-à-dire qu'il a une vision tellement... Alors, c'est pas que scientifique parce que c'est aussi un philosophe, mais vraiment, ça te prend. C'est-à-dire que tu te dis, mais ce mec a raison, en fait, dans quel monde vit-on ? Vers où va-t-on ? Et que veut-on éviter ? Et d'ailleurs, je voulais juste faire le lien avec juste une citation. Je triche un peu parce que je te parle d'un second livre. C'est un livre qui vient de sortir de Cédric Héroux, l'agriculteur qui vit dans la vallée de la Roya, que je connais bien personnellement, et qui a un combat qui me touche beaucoup. Il a sorti un livre préfacé par Leclésio, qui fait d'ailleurs une préface absolument incroyable, qui fait pleurer tout le monde. Son livre s'appelle « Change ton monde » à Cédric. Et la petite phrase qu'il disait, et ça rejoint un petit peu Dominique Bourg, on a un agriculteur d'un côté, un agriculteur humaniste qui aide les migrants, qui fait de l'agriculture en nature et progrès. De l'autre côté, on a un philosophe suisse, donc on n'est pas dans le même monde, mais quand même. Cédric, il dit « L'homme qui use de terreur est condamné à la terreur. Le changement réel, lui, est acté par le pardon. La rancœur appartient à la révolte, le pardon à la révolution. » J'espère une révolution pérenne qui s'appellerait transition. Mettons le vieux monde sur la touche aidons la population à prendre conscience de son pouvoir et cette transition deviendra révolutionnaire. Et je trouvais que, tu vois, ça me donne des frissons de lire ça parce que vraiment, ça me touche beaucoup et je trouvais ça sympa, c'est peut-être pas le terme, mais assez fort de te lire les dernières lignes de son livre où il explique son aventure d'agriculteur qui a accueilli des migrants sur son terrain et qui a été poursuivi par l'État pour délit de solidarité. Je trouvais que le lien était fort entre cette solidarité-là et les mots qu'utilise Dominique Bourg pour mettre un peu en avant la transition nécessaire dont on a tous besoin.
Merci pour le partage, Charles, et ça me fait beaucoup penser à une phrase qui m'accompagne énormément en ce moment, qui est de dire « plutôt que de prévoir le pire, construisons le meilleur ». Et Dominique Bourg, lui, il en parle de manière extérieure, et Cédric Héroux, il en parle de manière intérieure, parce qu'en fait, c'est aussi comment on doit construire cette résilience intérieure, cette capacité à voir l'autre comme un allié plutôt comme un ennemi. Et c'est hyper puissant. Donc franchement, bravo, merci pour ces lectures. On n'attend plus, on part tout de suite en 2030 Glorieuse, parce que j'aimerais bien quand même qu'on y reste un petit moment en 2030 Glorieuse. On a voyagé, ça y est, on vient de faire le voyage le plus écologique du monde, puisqu'on a voyagé dans les époques sans avoir bougé de notre chaise. Et tu rouvres les yeux, ça y est, tu es dans un monde où on a réussi. Alors, je ne sais pas ce qu'on a réussi, on peut le nuancer, le complexifier. Forcément, dans 10 ans, c'est à la fois très loin et très proche. Il y aura sans doute encore plein d'enjeux, plein de combats, plein de choses à améliorer. Mais toujours est-il qu'on sent qu'on tient quelque chose. Le vent a changé et l'utopie a changé de camp. Tu rouvres les yeux. Qu'est-ce que tu vois, Charles ?
Bah déjà, je suis content d'ouvrir les yeux. J'ai un peu la gueule de bois parce que j'ai pu sortir hier avec mes amis dans une ville festive et joyeuse où il n'y avait plus de Covid, où les bars étaient ouverts, on a bu du bon vin bio et nature, un petit vin qui venait de la Drôme, c'était génial. Donc du coup, je me réveille un peu dans le pâté. Mais non, écoute, je suis content parce que j'ai arrêté de travailler. C'est-à-dire que j'ai arrêté de travailler sous la forme qu'on connaît du travail parce qu'en fait, ma boîte, je l'ai fermée. Sequoia, ça fonctionne plus, ça s'est arrêté parce qu'en fait, ça faisait bientôt 10 ans que je travaillais à réduire l'impact environnemental des tournages et à essayer de proposer une nouvelle manière de faire l'audiovisuel. Et en fait, maintenant, c'est tellement dans la tête de tout le monde que proposer des conseils pour être écolo sur un tournage, ça n'a juste aucun sens, parce que les tournages sont justement devenus le truc le plus écolo de la Terre, et qu'en fait, on a réussi à créer un secteur qui est à la pointe, qui est socialement très avancé, qui a compris comment limiter son impact et a continué à justement créer un nouveau monde. Donc, c'est à dire que c'est un secteur qui continue à exister, qui continue à faire rêver, mais qui a su se réinventer pour ne pas mourir avec l'ancien monde. Et du coup, je travaille sur d'autres projets, mais on n'appelle pas ça vraiment du travail parce que maintenant, on est dans des formes de partage d'expériences collaboratives, d'intelligence collective, et on réfléchit ensemble au sein d'associations très locales. Je suis très impliqué avec ma mairie, avec mon département. On a créé un tissu résilient, un tissu de relations nouvelles autour de chez moi. C'est sûr que je vais plus beaucoup à Paris, hein, même si le nouveau train électrique sur coussin d'air inventé par le nouveau Tesla, le nouveau Elon Musk français. Fait que mon impact carbone est limité, mais non, en fait, les déplacements ont été réduits. Du coup, je travaille beaucoup localement avec les agriculteurs, avec les gens qui ont des projets sociétaux. Donc voilà où je suis en 2030. Ça va ou pas ?
C'est passionnant, Charles, parce qu'en fait, tu parles en 2030 Glorieuse de quelque chose, il y a 10 ans en arrière, qu'on avait beaucoup de mal à affronter, c'est-à-dire la mort. La mort, la nôtre, de mort, y être confronté dans nos sociétés occidentales, c'était impossible en 2020. Et la mort des entreprises, c'était aussi quelque chose qui était absolument tabou. On ne parlait pas, on voulait absolument faire survivre des entreprises qui parfois avaient une mission qui avait changé 10 fois et qui n'avait plus de sens, en fait. Et ce que tu dis, c'est que en fait, vous êtes arrivé avec une mission ponctuelle et à partir du moment où vous avez réussi, plutôt que vous accrocher, plutôt que d'essayer de faire durer quelque chose qui n'avait plus de raison d'être, vous avez accepté la mort de votre entreprise.
Tout à fait. Et tu sais, ça rejoint les problématiques sur le... Enfin, les problématiques, non, mais les débats sur le revenu universel. Le revenu universel, quand on te dit, tu vas avoir de l'argent qui, tous les mois, va tomber. d'une manière ou d'une autre. Alors après, on va pas rentrer dans les mécanismes de financement, tout ça, c'est pas le sujet, mais de dire, ok, bah, demain, tu auras 1500 euros par mois, ça te suffira en fait. Ça te suffira parce que tu n'auras pas besoin d'avoir, d'être un start-upper qui crée 75 startups et qui justement réinvente ta boîte tous les ans pour pouvoir gagner toujours plus, pour pouvoir consommer toujours plus. Parce qu'en fait, ça n'intéresse plus personne de faire ça. Et dans, un, dans une idée de frugalité, comme tu en as parlé tout à l'heure, et de simplicité, ben, mes baskets, elles marchent toujours bien, elles fonctionnent, elles ont une semelle, elles ont des lacets, donc en fait, elles ne sont plus à la mode, mais je ne vais pas en racheter 15 paires parce que ça ne me sert à rien. Et si j'en rachète une nouvelle paire, ben, je le ferai de manière responsable. Enfin, c'est le débat qui anime tous les chefs d'entreprise, j'imagine, du développement de sa structure. Quand on est dans une société d'économie capitaliste et qu'on doit justement faire du profit, comment on fait pour se détacher de ça? C'est-à-dire que comment moi, je ne passe pas pour un fou en disant bah, « En fait, moi, ma boîte, je gagne tant d'argent, elle fait tant de chiffre d'affaires, ça suffit largement. » Ah ben oui, mais tu ne voudrais pas faire plus, avoir plus de clients? Non, enfin, si c'est un but social et si c'est un but en effet écologique et plus responsable et plus qui permet de voilà de travailler un but commun plus durable, ok, pourquoi pas dans ce cas-là, si j'ai une entreprise à impact par exemple. Mais à partir du moment où en effet j'ai des clients, je gagne de l'argent, ma société tourne, j'ai des salariés, j'aime pas appeler dire salariés, mais bon, j'ai des collaborateurs, ça fait vraiment un manager, c'est encore pire, je trouve, enfin, je sais pas comment on peut dire. J'ai des personnes avec qui j'évolue dans ce cadre-là et qu'on est bien et que tout le monde est heureux. Tu sais, nous, chez Sequoia, on a un peu...
Si tu parles de Sequoia, c'était il y a 10 ans en arrière et j'aime bien en plus ton idée de dire que, en fait... Il y a un point clé que tu viens de souligner, c'est qu'en 2030 glorieuse, vu qu'on a un revenu universel et qu'on n'a plus besoin de courir après ce minimum, en fait, on ne fait plus tourner une roue inutilement juste pour toujours avoir plus de croissance et donc légitimer notre salaire. Aujourd'hui, on est dans une activité qui a du sens et qui contribue à quelque chose, qui a une vraie utilité.
Tout à fait. Donc oui, excuse-moi, j'étais reparti en 2020, c'était une bribe de souvenirs qui est revenue. Mais non, en effet, on a un revenu universel et le travail a perdu tout son sens en fait parce que on n'a plus besoin de gagner de l'argent pour le dépenser et ne plus avoir d'argent pour en regagner donc bosser plus. Donc en effet, aller vers ce mode là ça peut paraître complètement utopique et même parfois un peu naïf de proposer ça, mais sachant que le monde qu'on a connu à l'époque, en 2020, ça fonctionnait pas, en fait. On était dans une économie qui fonctionnait pas. On l'a bien vu. On est passé à deux doigts de la catastrophe en tuant la planète. Donc, à partir du moment où quelque chose ne fonctionne pas, en fait, je sais plus qui disait ça. Je crois que c'est Einstein, qu'on peut pas bâtir une solution nouvelle en se basant sur les problèmes ou un truc comme ça. Bah, là, on a fait table rase et on est reparti. Et aujourd'hui, en 2030, eh bien, on a modifié nos comportements, on a modifié nos envies. On n'a plus les mêmes souhaits qu'avant. Et ça fonctionne très bien, en fait. Et c'est beaucoup plus collaboratif, c'est beaucoup plus local. Et en effet, je n'ai pas besoin de mettre 3000 euros de côté pour aller à l'autre bout du monde pour voyager, parce que ça n'a pas de sens, parce que je peux déjà voyager en allant à vélo voir les villages d'à côté. Et c'est déjà une super expérience, une super aventure.
Je te corrige, Charles, en fait, mais tu disais le travail n'a plus de sens. Mais en fait, non, je pense que le travail a repris son sens. C'est plus un travail pour toucher un salaire, c'est un travail pour contribuer à un monde meilleur et nous épanouir aussi, nous, personnellement, socialement, dans notre créativité, dans nos talents. Et je pense que c'est important d'avoir le travail comme une libération plutôt que le travail comme une contrainte. Et 2030 glorieuse nous a permis de faire ce virage-là crucial.
Tout à fait. Après, le travail, je ne sais pas si dans l'imaginaire collectif, le travail peut être entendu comme quelque chose de si différent, tu vois. Alors, il l'a été, on est en 2030, en effet, ça l'a été. Mais c'est pour ça que j'aime bien aujourd'hui ne plus appeler ça « travail ». Et dire que voilà, c'est une nouvelle forme, c'est du lien, c'est du collectif, c'est de la complémentarité, c'est de l'aide, c'est de l'associatif. Mais le mot travail, il me fait tellement penser à tu vois, à cette époque révolue des années 2000, de je vais bosser, je vais au boulot, tu portes quelque chose qui était lourd. Et aujourd'hui, en effet, on a recréé un lien, on a recréé un fonctionnement qui est différent. Mais je ne sais pas si le réappeler le mot travail, c'est bien. Tu vois, ça me renvoie à un ancien monde que j'aime pas trop.
Peut-être qu'on a trouvé un autre mot, effectivement, de contribution, quelque chose comme ça. Ouais.
C'est un très bon exemple parce que contribuer, c'est justement, il n'y a pas cette notion. Quand tu dis je contribue à quelque chose, je trouve que tu enlèves la notion justement monétaire. Alors que le travail, c'est quand même dur. Tu vois, tout travail mérite salaire. C'était une phrase qu'on entendait beaucoup dans les années 2000. Moi, j'en peux plus de cette phrase-là. Et les heures supplémentaires, travailler plus, gagner plus que certains présidents portaient. Non, alors que contribution, collaboration, c'est on ne fait pas ça pour l'argent. On fait ça pour des choses qui sont beaucoup plus importantes, qui ont plus de valeur. Et justement, on définit des indicateurs qui ne sont pas les mêmes qu'avant. C'est-à-dire que l'indicateur de l'argent, c'est comme l'indicateur du PIB qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on utilise des indicateurs de, voilà, sociaux qui sont différents, de bonheur, de voilà, le bonheur intérieur brut par habitant. Mais on n'utilise plus ces termes-là de l'ancien monde qui nous rappellent que, voilà, on était enchaînés à cette vision de l'argent et du capitalisme qui en fait n'était bon pour rien ni personne, et encore moins pour la planète et les animaux, quoi.
Charles, comment toi qui as travaillé pendant 10 ans, ces 10 dernières années là, à transformer notamment le monde du cinéma et donc la manière dont on raconte les histoires, comment ce milieu, il a permis justement de changer les valeurs? Qu'est-ce que tu as vu dans les 10 dernières années qui fait qu'aujourd'hui, en 2030 glorieuse, notre mode de vie est accepté beaucoup plus facilement, alors que pourtant il est beaucoup plus durable, il est beaucoup plus en lien avec le vivant, et ce qui était presque encore décrié, pointé du doigt, raillé au mieux en 2020 et dans les décennies précédentes. Comment ça nous a aidé, le cinéma, par rapport à ça notamment?
C'est sûr que je me souviens de discussions qu'on avait il y a 10 ans où je me battais pour le placement de produits responsables et d'arrêter de mettre à l'écran des gros 4x4 et de mettre à l'écran des gens qui marchent. C'est vrai que ça a mis du temps, mais ça a réussi. Les producteurs ont compris, et les productrices ont compris qu'en fait on pouvait montrer des choses différentes et que le pouvoir de l'image, il était incroyable, qu'on pouvait faire rêver les gens, mais qu'on n'était pas obligé de faire rêver les gens par l'argent et par le matérialisme. Et du coup, ben, c'est une transition qui s'est faite doucement. C'est sûr que ça a pris du temps, mais voilà, on a montré petit à petit des nouvelles choses. On a mis des nouveaux gens à l'écran, on a mis des nouveaux visages, on a mis des nouvelles problématiques. On a parlé de choses beaucoup plus intenses. Je me souviens des Misérables en 2019, je crois que c'était au Festival de Cannes, qui avait fait grand bruit parce qu'on montrait une vision un peu brute de la banlieue et qui avait un peu ouvert les yeux de pas mal de gens. Eh bien, entre 2020 et 2030, ça a été un petit peu plus la norme. On a vécu une période où on en parlait trop. Il y avait trop ça à l'écran. Mais voilà, ça a su trouver un équilibre. Il y a eu un arbitrage qui s'est fait. Et même si on continue à faire rêver via des imaginaires incroyables et voilà, et la science-fiction et des choses que peut-être qu'on ne touchera jamais du doigt, on a quand même réussi à montrer dans le cinéma des choses bien, des choses humaines, des choses voilà, plus vivable en fait, plus sympa à regarder et plus sympa à comprendre et à enregistrer en fait. Et du coup, ça a créé des rêves, je ne sais pas, peut-être plus, pas durables, mais plus réels, plus ancrés dans une réalité qui était compliquée, notamment à cause du changement climatique et de tout ce qu'on a pu voir, des réfugiés climatiques, des problèmes de maladies, de Covid et compagnie. Donc en effet, le cinéma et la publicité, parce que la publicité a notamment interdit il y a quelques années maintenant la publicité pour des produits qui étaient néfastes pour l'homme ou l'environnement. Et ça, c'était une grande avancée aussi de dire, bah, si vous avez un produit à vendre qui est pourri pour tout le monde, eh ben en fait, on vous aidera pas à communiquer là-dessus, quoi. Vous vous débrouillerez pour le vendre et on vous enverra pas des supports pour aller mettre ça dans la tête de tout le monde, quoi.
Et le cinéma qui, pendant un temps, était tombé dans le piège un peu hollywoodien, américain, de devenir en fait un véhicule d'un message de surconsommation, a changé, hein. Nous, en plus, en France, on a la chance d'avoir eu cette spécificité du cinéma et de l'audiovisuel français qui a essayé de conserver cette envie de raconter le monde différemment et de mettre en avant des récits qui soient enthousiasmants et qui soient créatifs et qui soient originaux. Mais ça a vraiment repris le devant de la scène. Et donc, moi, je le constate en 2030. Aujourd'hui, on est aussi avec une compréhension beaucoup plus fine de la culture et de l'importance de la culture et de la créativité et des arts dans notre quotidien. Tu t'en souviens peut-être, mais en 2020, au moment où l'économie se contractait, où on se retrouvait tous chez nous, on oubliait les théâtres, on oubliait l'importance des cinémas, on oubliait l'importance des musées, on avait un peu mis ça de côté, alors qu'en fait, c'est Churchill qui le disait, et je suis très mauvais en citation, donc c'est une citation à peu près, mais à quoi bon se battre pour le monde si finalement c'est un monde où il n'y a pas de culture? Et ça, je crois qu'en 2030 Glorieuse, on l'a bien retrouvé.
Et c'est drôle parce que je me souviens qu'en 2020, aux alentours de d'octobre 2020, il y a, je sais plus, c'est un ministre qui avait dit ça en disant la culture n'est pas la priorité, on a d'autres pans de l'économie à sauver. Ben à l'époque, c'était bien un exemple de quelqu'un qui n'avait rien compris et qui était bien témoin de cet ancien monde. Quoique Churchill, qui était encore d'un monde d'avant, lui, il disait déjà l'inverse, comme tu l'as cité. Donc, comme quoi, ça dépend vraiment de ce qu'on apprend. Mais tu sais, ces 10 dernières années, on a continué à faire des films et à faire des événements qui étaient quand même pas très écolo. Hein. Il faut pas non plus être trop naïf. Ça a continué d'exister. Hein. Aujourd'hui, je crois qu'Universal a tourné Fast and Furious 47 épisodes. Bon, c'est que c'est rentable à un moment donné. Donc, il y a quand même des problématiques d'argent qui sont toujours là. Et moi, j'ai pas honte de dire que je suis allé voir au cinéma Fast and Furious 47 parce que ça m'a fait marrer, en fait. Mais bon, j'étais content de voir qu'à la fin, ils avaient expliqué qu'ils avaient reversé 10% de leur budget à des associations de défense de l'environnement. Et voilà, et ben, je suis allé dans mon petit cinéma de quartier à vélo. Alors oui, c'était pas les dernières technologies, c'était pas en 19K. Et on n'était pas en 17.1 en termes de son. Mais par contre, c'était un petit cinéma de quartier, c'était cool, et ça m'a fait plaisir de regarder un film à la con et de me changer les idées. Mais c'est quand même plus la norme. Le blockbuster hollywoodien, il fait un peu la tronche. Hein. On est plus trop dans ce modèle-là. Et au contraire, on raconte des films voilà, qui sont des histoires simples, drôles, des histoires... Il y a plein d'histoires aussi qui sont vraies, c'est-à-dire que, tu vois, le Fast and Furious, c'est le bon exemple, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de gens qui s'amusent à faire ce qu'ils sont en train de faire avec leur voiture. Par contre, raconter une histoire, tu vois, de copains qui se prennent la tête en vacances, quand c'est bien fait, que c'est dans un huis clos, que c'est beau, qu'il y a des belles images, une belle musique, ben en fait, ça te fait tout autant voyager, et ça te touche différemment, mais ça te touche, tu vois. Et les gens ont compris ça, l'audiovisuel a compris qu'on pouvait montrer des choses différentes. Et ça marche bien parce que les cinémas de quartier ont explosé. Maintenant, je crois qu'on a presque un cinéma par commune sur les 36 000 communes de France. C'est incroyable. Des fois, c'est des petits écrans qui font 3 mètres de long. Mais tu vois, on a remis ça au goût du jour. Il y a des événements culturels partout aujourd'hui. Je vois que dans mon village, il y avait encore une expo de peintres locaux. Enfin, c'était super. Il y a des talents partout. Ils demandent juste à émerger. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans un monde globalisé où c'était le pouvoir de l'argent, le pouvoir d'être surmédiatisé tout le temps, les Instagrammeurs, tu te souviens à l'époque, les gens qui avaient des, comment ça s'appelait, des followers. Oh, c'était incroyable. Et ben voilà, aujourd'hui, on n'est plus là-dedans et je trouve que ça marche bien d'être dans quelque chose d'un petit peu plus réel et de montrer des choses qu'on vit en fait. Et d'être un beau miroir de la ville, le cinéma.
Merci Charles d'avoir joué le jeu. C'est pas évident hein, de se projeter en 10 ans et en étant souvent happé par ce quotidien qui nous préoccupe et qui nous prend pas mal de notre énergie, mais aussi de nos pensées. Mais en tout cas, ces 20 minutes passées ensemble en 2030 glorieuse étaient passionnantes. Bravo pour ton imagination et ton optimisme concret. On revient en 2020, les gens nous ont écoutés, ils ont pris du plaisir à se projeter dans ces utopies réalistes que tu as ouvertes. Qu'est-ce que tu leur suggères comme premier pas pour marcher vers ces chemins? Quelle est, à ton avis, la première action à mettre en place dès aujourd'hui pour construire chacun de son côté ces mondes-là?
Bah, je vais reprendre ce qu'a dit Cédric Héroux dans son livre qui vient de sortir, quand il dit qu'il ne faut pas vouloir changer forcément le monde, mais qu'il faut d'abord changer son monde. Change ton monde, je trouve que c'est pas mal parce que c'est simple, mais c'est tellement efficace. On a tous beaucoup à faire et des fois c'est dur. Hein. On entend beaucoup parler d'éco-anxiété, tu vois, que faire à son échelle face à un monde qui se dégrade comme ça. En fait, on est anxieux, on a peur de qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et que des grandes multinationales ont un impact un milliard de fois plus supérieur au tien. Mais sauf qu'en fait, notre pouvoir, c'est qu'on est beaucoup plus nombreux, quoi. On est beaucoup plus nombreux et on a le choix, en fait. On a le choix de ne pas aller acheter des conneries, de ne pas aller, tu vois, d'être ouvert à l'autre, de ne pas être bloqué, fermé, comme on a pu le voir dans certains endroits de France où on est fermé à l'autre. On a le pouvoir de s'ouvrir, on a le pouvoir d'être bienveillant, d'être empathique, de se mettre à la place des gens, de comprendre un petit peu leur fonctionnement, d'essayer de vouloir le bien. La bienveillance et l'empathie, c'est des termes qui font tellement... on se croirait dans un bouquin de philo, mais c'est tellement fort, quoi. Et être bon, tu vois, moi, je parle souvent avec un copain, on discute des points karma, je dis toujours, essayer d'avoir le plus de points possible de karma, c'est les karma coins, de mettre des pièces dans le jukebox du karma, c'est-à-dire toujours essayer de faire les trucs bien, parce qu'en fait, le boomerang, il te revient à un moment donné, donc si quotidiennement, on peut essayer de changer notre monde, de changer les choses, de changer la manière dont on voit les autres, et voilà, je pense qu'il faut réussir à se mettre en accord avec soi-même, essayer d'enlever un peu les œillères et de se dire, ok, qu'est-ce que je veux faire pour changer, qu'est-ce que je peux changer, comment je peux le faire. Et puis à un moment, il faut y aller, quoi.
Et j'entends aussi dans ce que disait Cédric Héroux, le pouvoir du pardon comme une clé fondamentale pour ouvrir les mondes de demain.
Bien évidemment, ça va ensemble. Mais je pense que ça rejoint tout à fait la bienveillance. Hein, le pardon, la compréhension, l'ouverture, c'est des mots qui paraissent un peu vagues et abstraits. Mais en fait, quand on y pense, on le voit quotidiennement, quoi. On le voit tous les jours et on le vit tous les jours. Et en fait... choisir d'être ouvert à l'autre, choisir de pardonner l'autre, choisir de vouloir renouer des ponts, dire les choses, d'être honnête, de pas être malveillant, tout ça, c'est des choses qui sont pas simples à faire. J'en parle, mais j'ai beaucoup de mal à le faire moi-même, hein, c'est vraiment compliqué. Mais faut être des passeurs d'espoir, faut transformer notre monde, des passeurs d'humanité, parce que c'est nous qui créons, c'est nous qui fabriquons, on est notre société, hein. Donc essayons de vouloir nous changer nous pour changer le monde. Je pense que c'est pas mal.
Merci Charles.
Merci à toi Julien.
Et voilà, notre échange avec Charles vient de se terminer. Un échange fructueux, long. Tortueux parfois, mais c'était vraiment pour moi très important de donner la parole à Charles qui, lui, est vraiment un défricheur. Sincèrement, il y a 3 ans, on avait ces conversations avec lui qui me présentait son projet, qui me racontait prendre porte sur porte, refus sur refus, et dénigrement sur dénigrement. Et c'était fou de voir à quel point il y avait cette intuition géniale que transformer la profession de l'intérieur était absolument nécessaire, et que pourtant, dans un milieu où la créativité normalement est le maître mot et la sensibilité et le lien avec le vivant est normalement inné, en fait c'était aussi avec ce verrouillage très fort des producteurs du business, de l'argent et puis des habitudes, hein, on va pas se mentir, qui sont parfois très difficiles à faire tomber. Et dans l'expérience de Sequoia, dans l'expérience de Charles et Mathieu, l'autre cofondateur de Sequoia, on retrouve cette envie de changer les choses, cette pugnacité, parce que vraiment il a fallu tenir bon, et finalement c'est un changement qui aujourd'hui va permettre de plus en plus de forcer d'une certaine manière à mettre toutes les équipes en cohérence avec leurs valeurs, et donc très rapidement de plus en plus avec les propos qu'ils développent aussi dans leurs histoires montrées notamment au cinéma. Donc ça m'étonnerait pas que dans quelques années on puisse vraiment mesurer directement l'impact du travail de Sequoia, qui aura non seulement réussi à profondément modifier les habitudes de production des films, hein, qui sont quand même jusqu'à présent particulièrement nocifs pour l'environnement. C'est un gâchis organisé, c'est assez impressionnant à voir, et qui bientôt en plus arrivera même, j'en suis persuadé, à changer les histoires, à changer les valeurs dans notre société, et à montrer, comme le disait Charles, que en fait rouler avec sa grosse Mercedes en ville, c'est vraiment quelque chose d'une autre époque. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter cet échange, et puis je vous dis forcément à dans 2 semaines pour un autre épisode. Salut. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus, et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes, et je vous donne rendez-vous sur sacommencepartmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !